Enseignant à Sciences Po et membre du Centre d'études et de recherche internationale, Christian Lequen a forcément un ressenti particulier sur le 10e anniversaire de l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne. De janvier 2004 à août 2006, il était en effet directeur du CEFRES, le Centre français de recherche en sciences sociales basé dans la capitale tchèque. Le 1er mai 2004, Christian Lequen s'attendait à croiser les Pragois en liesse. Ce ne fut pas le cas, bien que diverses manifestations étaient organisées pour célébrer cette adhésion. Au micro de Pierre Maignan, le chercheur a d'abord essayé de répondre à la difficile question de savoir ce que l'élargissement de 2004 a apporté à l'Union européenne.
Un des problèmes que nous avons justement aujourd'hui dans tout un tas d'États, c'est qu'on pense que les problèmes que connaît l'Union européenne sont en partie imputables à l'élargissement de 2004. C'est faux, c'est pas juste du tout. Je crois que ça n'est pas parce qu'il y a eu l'élargissement de 2004 qu'il n'y a pas eu davantage d'approfondissement. L'approfondissement était déjà compromis avant que les États entrent. Ensuite, c'est quand même très difficile de répondre à cette question de façon globalisée parce que il y a des cas qui sont très différents. Et si on prend les pays d'Europe centrale, les quatre membres de Visegrad, c'est très difficile de parler de la même manière de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie. Ce sont quatre cas assez différents. Si vous prenez par exemple les performances économiques, il est évident que la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne constituent plutôt un groupe qui a bien réussi à s'adapter, alors que la Hongrie n'a pas réussi. Si vous prenez l'engagement en faveur du développement des institutions européennes, il est évident qu'il y a plutôt une ambition polonaise très forte qui n'existe pas dans les autres pays. Si vous prenez la contribution aujourd'hui à la politique extérieure de l'Union européenne, là aussi il y a une ambition polonaise qui est importante. Tout ça peut en même temps changer parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi des pays où il y a des débats. Enfin, en République tchèque, il n'y a pas une ligne face à l'Europe, il y a des lignes qui sont incarnées par des partis politiques différents. C'est ce que j'essaie d'expliquer souvent en France parce que on a gardé finalement en France l'idée d'une République tchèque très eurosceptique. Et là, je crois que c'est vrai que le président Klaus a réussi quand même à délivrer un message à l'extérieur qui était d'une République tchèque qui voulait pas de l'Europe.
Alors justement, en parlant de Monsieur Klaus, il a fait réagir ces temps-ci puisqu'il a par exemple, il considère par exemple que le traité de Lisbonne a limité la souveraineté des petits pays dans l'Union européenne. Alors c'est un point de vue qui est pas seulement partagé par quelqu'un comme Monsieur Klaus.
Bon, ça a tendance à me faire sourire, si vous voulez, ce genre de déclaration, parce que prenez l'histoire de la République tchèque. Depuis que la Tchécoslovaquie a accédé à l'indépendance en 1918, je veux dire, c'est grâce au fait d'être dans l'Union européenne et grâce au fait d'être dans l'OTAN également, les deux, que la République tchèque peut aujourd'hui faire valoir sa souveraineté. Enfin, je veux dire, quand on pense à ce qu'a été l'histoire tragique de ce pays, on se dit qu'il n'a jamais été aussi sécurisé et aussi à même d'affirmer, disons, sa position nationale que depuis qu'il est dans l'Union européenne et depuis qu'il est dans l'OTAN. Donc je trouve, là, si vous voulez, d'un point de vue strictement historique, la position, la déclaration de M. Klaus que je n'ai pas entendue, n'a absolument aucun sens, aucun sens.
Comment expliquer le faible intérêt des Tchèques pour l'Union européenne, ou en tout cas le faible intérêt des Tchèques pour les élections européennes ?
Mais je crois que ce n'est pas là encore une particularité des Tchèques, c'est une particularité de l'ensemble des sociétés européennes face à cette élection qui a lieu tous les 5 ans des députés européens. Je parlais hier avec un analyste polonais qui me disait que on s'attendait à un taux de participation en Pologne aux alentours de 20%. Je pense que c'est lié à la difficulté qu'a le Parlement européen à faire comprendre dans les sociétés le rôle qu'il joue. Et c'est d'autant plus paradoxal que c'est une institution qui n'a cessé, depuis le milieu des années 80, de gagner des pouvoirs. S'il y a une institution qui a vraiment gagné du pouvoir dans le développement institutionnel de l'Union européenne, c'est bien le Parlement européen. On considère aujourd'hui que 75% à peu près de ce qui est décidé au sein de l'Union européenne l'est en codécision entre les États et le Parlement européen. Mais ça ne s'est pas accompagné d'une légitimité, ça ne s'est pas accompagné, disons, d'une véritable connaissance par le public. Et là, il y a aussi une responsabilité, je crois, de la part des hommes politiques et des femmes politiques nationales. On a un débat, par exemple, en France, en ce moment. Vous savez que le 15 mai, il va y avoir à la télévision ce débat entre les grands leaders des partis, donc M. Schulz pour le Parti Socialiste Européen, M. Santer pour le Parti Populaire Européen, le Centre Droit, etc. etc. Et la radio-télévision française a décidé de ne pas le passer, ou simplement de faire en sorte que ce soit disponible sur Internet. Bon, bah là, il y a un vrai problème quand même.